enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
L'étude que nous allons commencer, qui est l'ouverture de la deuxième porte. Tiens, toi, c'est la deuxième porte. La deuxième porte a pour objectif, amen, cette bénédiction-là, va faire en sorte que Dieu puisse manifester au travers de vous ce qu'il a mis en vous. Vous savez, tant que vous manifestez pas votre potentiel, vous, potentiellement, vous pouvez être jaloux déjà. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Vous allez imiter les autres. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous ne comprenez pas pourquoi, sur le plan du visage, sur le plan extérieur, Dieu vous a rendu différent des autres. Regardez, nous sommes plus d'une centaine dans ce lieu. Regarde ton voisin, vous ne vous ressemblez pas. Si Dieu est capable de faire des personnes, regardez tous, on a tous un nez, on a tous deux yeux, on a tous des oreilles, placés pratiquement au même endroit. Et pourtant, on ne se ressent pas. C'est extraordinaire. Si Dieu peut faire avec les mêmes fonctions, les mêmes, les mêmes membres, les mêmes organes, Dieu reproduit, chacun est né. Mais il n'y a pas deux personnes identiques. Si Dieu est capable de le faire sur le plan physique, à plus forte raison sur le plan émotionnel et spirituel qui sont beaucoup plus basses, Dieu t'a rendu différent de l'autre. C'est-à-dire avec des capacités différentes. Amen. Alléluia.
Amen.
Notre monde est un monde très dangereux. Tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. Vous voyez? Il apprend aux gens à ne pas avoir confiance en ce que Dieu a déposé en eux et à chercher à adorer des idoles, à être comme des gens. C'est-à-dire, les gens voient un chanteur, Michael Jackson, tout le monde veut comme Michael Jackson. Quelqu'un vient passer à la télévision, il se lève le col, son habit est comme ça. Mais les gens ne savent pas qui ils sont. Et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, lorsqu'ils pensent avoir trouvé quelqu'un qui, selon eux, s'est retrouvé, ils essaient de le suivre. Amen. Mais vous allez voir que vous êtes des gens différents. Et que Dieu a déposé en vous quelque chose d'extraordinaire. Dis à ton voisin, tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Ton enfant doit sortir. Ton enfant doit naître. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant que tu vas enfanter, le produit qui va sortir de toi, ce que Dieu a déposé en toi avant la fondation du monde, la raison pour laquelle Dieu t'a créé est la véritable source de ta bénédiction. Tant que tu marcheras dans la bénédiction des autres, tu seras jamais épanoui. Tu ne feras pas ce que pasteur Sanogo fait. Mais tu feras ce pour quoi tu t'es appelé. Si tu veux faire ce que pasteur Sanogo fait, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas béni. Amen. Ta bénédiction, c'est de donner ce que Dieu, de manifester ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Viens avec moi, ça va sortir. Je vais vous parler parce que je veux qu'il y ait des gens qui soient enceintes. En fait, je vais vous donner la parole pour que vous soyez enceintes. Puis aujourd'hui, tiens que tu es déjà enceinte, mais je vais remuer le bébé qui dort dans ton ventre. Hein, là, tu es enceinte depuis un an. C'est pas normal, c'est 9 mois. Alléluia. Mais le bébé doit sortir. Tu dois manifester ce que Dieu attend de toi. Et c'est ce que donc nous allons étudier au travers de la deuxième porte. Ouvrons. Nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 4. Il est dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans notre enseignement sur les 12 portes. Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, brièvement. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, le Seigneur dit que si quelqu'un obéit à sa parole, Dieu va le bénir. Et il dit voici toutes les bénédictions qui accompagneront, qui suivront ceux qui s'attacheront à la parole de l'Éternel, qui vont faire ce que Dieu demande. Et le Seigneur va citer un certain nombre de bénédictions, il va en tout citer 12. Nous avons compté cela la dernière fois. Et les 12 bénédictions ne sont pas fortuites. Dieu ne cite pas, ce n'est pas un accident, cela est une volonté de Dieu. Et l'Éternel, en me montrant cela, m'a conduit dans d'autres passages de l'Écriture pour me faire voir que, parce que vous savez que la bénédiction est une promesse. En fait, la bénédiction, c'est la promesse en fait. C'est la promesse. Ce que Dieu te promet, c'est ce qui te bénit. Amen. Quand tu entres dans ta promesse, tu entres dans tes bénédictions complètement. Et le Seigneur va me faire remarquer, c'est que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, Dieu me dit que pour Canaan, qui est la promesse définitive des enfants de Dieu, quand je dis Canaan, pardon, pour la nouvelle Jérusalem, qui est la promesse définitive des enfants de Dieu, l'Éternel dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 12, que cette ville-là, qui est la nouvelle Jérusalem, là où nous serons, là où nos larmes seront consolées, où nous serons consolés, la Bible dit que cette nouvelle Jérusalem avait 12 portes. Et le Seigneur me rappelle encore ceci, me ramène dans l'Ancien Testament pour dire, Israël avait souffert pendant de longues années en Égypte. Ils sont passés par des temps d'épreuve où Dieu a formé leur caractère pour qu'ils puissent entrer en Canaan. Et Dieu m'a dit, pour qu'Israël entre en Canaan, Dieu a voulu qu'il soit divisé en 12 tribus. Donc, la nouvelle Jérusalem, qui est la promesse de Dieu, a 12 portes, 12 façons d'y entrer. Et Canaan, qui est une image, n'est-ce pas, qui est une préfiguration, lorsqu'on dit tu vas rentrer dans ton Canaan, ça veut dire que tu rentres dans tes promesses. Qui est une préfiguration, n'est-ce pas, des promesses de la bénédiction, a été, comment dirais-je, conquise par 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, d'Israël. Dieu a voulu qu'il y en ait 12. Et je vous ai fait remarquer, ça se signifie, c'est que Dieu tient toujours à ce qu'il y ait 12, non pas 11, ni 13, ni 14. Dieu tient absolument à ce qu'il y ait 12 façons, de 12 portes d'entrée en Canaan ou dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Par exemple, je vous ai donné l'exemple des apôtres en disant ceci, c'est que les apôtres eux-mêmes, lorsqu'ils ont perdu Judas, et Dieu a tenu à ce que Judas soit remplacé pour qu'il soit au nombre de 12. Et lorsqu'il a été demandé de remplacer Judas, on avait trouvé deux personnes qui potentiellement pouvaient remplacer Judas. Ça veut dire deux personnes qui avaient suivi la même formation que les autres apôtres. S'ils avaient suivi la même formation que les autres apôtres, pourquoi n'y avait-il pas 14 apôtres? Alléluia. Donc pour Dieu, il ne s'agissait pas des gens qui avaient la compétence. Ou des gens qui pouvaient, parce que les gens qui avaient la compétence, il y en avait au moins 14 qui suivaient Jésus. Amen. Du moins qu'à l'absence de Judas, on a proposé 12 autres personnes qui n'étaient pas citées dans les 12 apôtres. Donc Dieu tient à ce qu'il y ait 12, non pas 13. Donc ce chiffre est très important. Amen. Et il y a 12 portes, 12 façons pour chaque homme d'entrer dans cette promesse. Qui sont résumées donc par ces 12 bénédictions qui sont en Deutéronome chapitre 28. Votre vie est comblée. Vous rentrez dans votre Canaan quand vous ouvrez dans votre vie chacune de ces 12 portes. Si vous ouvrez une seule porte, vous allez sentir un seul aspect de la bénédiction dans votre vie, mais vous ne serez pas comblé. Amen. Par exemple, si vous ouvrez la porte, c'est la porte qui suit, où l'Éternel dit, je bénirai ta corbeille et je bénirai ta huche, vous allez avoir ce privilège, c'est que vous ne manquez de rien. Vous avez de quoi vivre, de quoi manger, n'est-ce pas? Vous avez le minimum vital. Amen. Mais si vous n'avez pas ouvert la deuxième porte que nous allons apprendre à ouvrir, qui dit, je bénirai tes entrailles, par exemple, votre foyer ne sera pas heureux. Donc vous êtes béni, vous pouvez manger, mais vous avez des problèmes dans votre maison, vous avez des problèmes d'enfantement, vous avez des problèmes de productivité, mais vous êtes béni, vous ne manquez de rien, vous avez ouvert la troisième porte, vous n'avez pas ouvert la seconde porte. Donc vous voyez des gens, quand ils voient leur vie, si tu leur demandes, est-ce que Dieu t'a béni? Ils disent, oui, je suis béni. Mais ils sont insatisfaits parce qu'il y a un élément de la bénédiction qu'ils n'ont pas. Il y a une porte, par exemple, qui vous ouvre la faveur des hommes. Alléluia. C'est une autre porte qui dit que la bénédiction va te poursuivre. Amen. Donc la porte qui vous ouvre la faveur des hommes, ceux qui ouvrent la porte de la faveur des hommes, sont des gens qui trouvent grâce auprès de tous les hommes. Amen. Quel que soit l'endroit dans lequel ils se trouvent, les gens leur sont favorables. Les gens leur sont favorables. Quand vous n'avez pas ouvert cette porte, même si vous avez les autres bénédictions, vous avez trop d'ennemis. Partout, vous avez les gens qui ont des problèmes. C'est comme si votre visage provoque les gens et les gens. Vous ne plaisez pas aux gens. Alléluia. Et Dieu veut que nous puissions ouvrir toutes ces portes dans nos vies. Voici donc le but de notre enseignement. Nous avons étudié d'abord donc la première porte et nous sommes en train d'étudier la seconde porte des bénédictions. Et j'ai dit, la première porte c'était ceci. Dieu dit, je te bénirai dans la ville et je te bénirai dans la campagne. Alors ville et campagne, ça parle de lieu, ça parle de domaine. Amen. Alors la première faveur que je vous ai expliqué que Dieu accorde à la ville quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est qu'il le met dans un lieu où il va manifester sa faveur. Il y a toujours un lieu. Dieu voulait bénir Adam. La Bible dit que lorsque Dieu les a créés, la Bible dit que Dieu a planté un jardin en Éden et il a mis Adam et Ève afin qu'ils puissent jouir. Lisez bien la parole de Dieu. Tout le monde entier n'était pas le jardin d'Éden. Dieu a fini de créer la terre. Il a tout créé. Et à l'Orient, dans un endroit, il a planté un jardin qu'il a appelé le jardin d'Éden où il a mis Adam et Ève. Il n'était pas répandu sur toute la terre. C'était dans un lieu où ils devaient demeurer. Lorsqu'ils ont péché, ils sont sortis du lieu. La première malédiction qui est arrivée à l'homme, c'est de quitter le lieu de sa faveur. Amen. C'est pourquoi la première bénédiction par laquelle Dieu se manifeste dans votre vie, c'est de vous faire arriver dans un endroit qui est comme votre Éden. Amen. Où vous allez commencer à manifester le potentiel que Dieu a mis en vous. Quand vous n'êtes pas dans votre Éden, quelle que soit la grâce de Dieu qui est dans votre vie, vous n'arrivez pas à produire. Alléluia. Ou bien pour produire, ça devient très, très, très compliqué. Mais il se trouve que dans votre Éden, quand vous êtes parti, il y a des géants qui sont venus. Amen. Ceux-là, nous avons appris donc toute la saison dernière, tout le mois dernier, à les éliminer, à leur couper la tête et puis à prendre possession, n'est-ce pas, du lieu de notre bénédiction. Ce que je vous explique, ça c'est d'abord de manière éternelle. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que ce n'est pas un hasard que l'année soit divisée aussi en 12 mois. Amen. C'est que chaque année que vous allez passer, chaque année, Dieu a un plan précis pour vous, n'est-ce pas? Vous suivez un cheminement qui vous conduit vers votre destinée éternelle. Alléluia. Donc, chaque année, il y a une nouvelle recommandation de Dieu, mais toujours dans le grand contexte de votre destinée. Dieu te dit, cette année, mets-toi à telle position, c'est là que je te bénirai. Alléluia. Parce que je vous ai dit que le domaine, ce n'est pas seulement un lieu physique, mais ça peut être un domaine d'activité. Amen. Et la veillée nous a permis à plusieurs, n'est-ce pas, de sentir quelle est cette année. Donc chaque année, quand vous arrivez en janvier, ne demandez pas toutes les bénédictions d'abord. Premier mois, Seigneur, où tu veux que je me positionne cette année pour voir ta faveur? Le premier mois de l'année, chaque premier mois de l'année, cette année, où je dois me positionner? Dans quel domaine tu veux que j'excelle? Où tu veux que je travaille? Il faut l'avoir. Deuxièmement, c'est la deuxième porte. Qu'est-ce que tu veux que je sais? Amen. Et il y a différents domaines donc à conquérir, qui sont des territoires, hein, n'est-ce pas? Donc vous prenez la victoire, chaque année vous ne posez pas quelque part, chaque année vous ne posez pas quelque part, et l'ensemble des territoires que vous êtes en train de conquérir, n'est-ce pas, chaque année, n'est-ce pas, le premier mois de l'année, ne fait que faire votre canard définitif. Le second mois, amen, qui nous est le deuxième mois, Dieu dit donc cette parole, voici la porte, mon fils, je bénirai tes entrailles. Je bénirai tes entrailles. Je bénirai ton sol, je bénirai ton troupeau, ton bétail, les portées de ton menu, de ton grand bétail seront bénies. La première partie de cet enseignement qui m'intéresse aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est cette notion, je vais bénir tes entrailles. Alléluia. C'est quoi les entrailles? La parole de Dieu, du mot hébreu, d'où est tiré le mot entrailles, le mot hébreu, d'où est tiré l'interprétation entrailles, s'écrit, c'est dit bétel. Il parle effectivement du sein, du ventre. Il parle aussi de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il parle de l'intérieur. Ça veut dire, Dieu dit, je vais bénir ce qui va sortir de toi. Je vais bénir tes entrailles. Je vais bénir tes entrailles. Donc, ça veut dire, je vais bénir le mot même bétaine aussi veut dire aussi matrice, hauteur, capacité de créer. Ce même mot l'a traduit, c'est ça. Il dit, je vais bénir ta capacité à créer. Cette porte-là, quand vous l'ouvrez, vous avez l'intelligence qu'il vous faut pour l'année. Cette porte-là, quand vous l'ouvrez, bon, je n'ai pas dit que vous n'allez pas tout comprendre. Mais vous allez avoir l'intelligence dont vous avez besoin. Vous allez quelque chose va sortir de vous, que ce dont vous avez besoin pour la période dans laquelle vous êtes. Amen. Alléluia. Quand cette bénédiction est manifestée, vous produisez quelque chose. Vos entrailles se mettent à produire. Dieu va bénir tes entrailles. Tes entrailles seront bénies. Amen. Tu vas avoir l'intelligence de Dieu pour l'année. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose qui vient de l'homme. La sagesse, c'est quelque chose qui sort de toi. Amen. Quand tes entrailles ne sont pas bénies, c'est que tu laisses manifester ce qui est l'homme naturel. La Bible dit que ce qui est à l'intérieur de vous est mauvais. Il dit, n'est-ce pas, ce qui sort de l'homme. Amen. C'est ce qui suit l'homme, la méchanceté, la jalousie, l'aigreur, comme dit le Seigneur, sur votre bouche. Ça, ça veut dire que vos entrailles ne sont pas bénies. Amen. Vous ne produisez pas le fruit que vous avez produit, vous produisez autre chose. Qui n'est pas le fruit que vous devriez produire. Alléluia. Alors, notre enseignement va se passer en ceci. Aujourd'hui, on va apprendre à discerner les enfants illégitimes, parce qu'il y a des enfants illégitimes. Vous êtes capable, je sais que là où vous êtes chacun de vous, vous êtes en train de vouloir produire des choses. Il y a des choses que vous essayez de produire dans votre vie qui ne sont pas vos enfants. Qui ne sont pas les enfants que Dieu va vous donner pour l'année. Mais ce sont des idées très intelligentes. Ce sont des idées très sages même. Oh, si vous partagez avec les gens vous diront, mon frère, c'est une extraordinaire idée. Mais ce n'est pas ton fils de l'année. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a d'autres enfants qu'on peut avoir qui ne sont pas les enfants légitimes. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Donc on va apprendre à discerner, n'est-ce pas, qui n'est pas ton enfant. En fait, pour que ce qui n'est pas ton enfant, tu puisses le mettre à l'écart et commencer maintenant à être enceinte et à enfanter. Ah, le vrai. Qui comprend quelque chose, si tu comprends faire comme ça. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose qui n'est pas l'enfant. C'est pas ton enfant. Tu vois, tu as trouvé le lieu. Mais tu n'as pas trouvé ce que tu dois faire dans le lieu. Alléluia. Tu as trouvé le lieu. Mais tu n'as pas trouvé ce qu'il fallait faire dans le lieu. Tu dis, mais Dieu m'a dit, si j'arrivais, je serais béni. Mais il faut que tu sèmes pour que tu puisses récolter. Mais tu vas semer quoi? Qu'est-ce qui va sortir de toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Amen. Dieu veut bénir tes entrailles. Tout ce que tu peux produire, et ce dont nous parlerons aujourd'hui, n'est pas forcément enfant de Dieu. Je sais que vous êtes. Et quand je dis cette même porte, je n'aborderai pas cet aspect-là aujourd'hui. On va l'aborder. Cette même porte, et cette même porte ouvre à l'aspect du mariage. Seulement que là, en fait, tu. Les entrailles sont les entrailles physiques. C'est-à-dire que tu produis hein, un enfant en rencontrant l'homme de ta vie. C'est la porte qui ouvre au mariage. Alléluia. Genèse chapitre 22. Je lis à partir du verset 1. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-lui en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je lis verset 12. Il dit, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse chapitre 22, verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai. Je te bénirai, je te multiplierai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, quand je lis, j'ai l'impression que Dieu a fait une erreur. Dieu dit à Abraham, ton fils, ton unique. Est-ce qu'Abraham avait un seul fils? Il avait un grand frère. Mais Dieu ne reconnaît pas Ismaël. Il dit, donne-moi ton fils par trois fois. Donne-moi ton fils, ton unique. Abraham a fait l'effort d'avoir un fils qui s'appelle Ismaël. On dit, lui là, ce n'est pas ton enfant. Il a eu un deuxième enfant qui s'appelle Isaac. On dit c'est ton enfant. D'ailleurs, il a eu d'autres enfants après. Ismaël est l'enfant d'Abraham, mais ce n'est pas aussi l'enfant d'Abraham. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Quand Dieu dit je bénis tes entrailles, ça veut dire tu vas produire les enfants de la promesse. Je vais bénir tes entrailles. Tu vas produire ce qui te conduit dans ta promesse. Je vais bénir tes entrailles. Je vais te bénir pour ne pas que tu produises autre chose que ce qui est ta promesse. Parce que tu peux produire autre chose. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Dieu dit à Abraham, ton fils, ton unique. Tous les enfants que vous allez produire, en fait, tout ce qui peut sortir de vous, n'est pas forcément le fils de la promesse. Cette année, ce mois-ci, Dieu va te donner quelque chose. Dieu va te rendre fécond. Mais fécond d'une idée, d'une stratégie, de quelque chose qui vient de lui. Amen. Et cette chose-là est ta promesse. Et ta bénédiction. Alléluia. Beaucoup de personnes ici ont eu des projets, mais ils ont enfanté des enfants qui ne sont pas allés quelque part. Cela matin, on dit, frère, actuellement en Côte d'Ivoire, tout le monde doit enfanter, j'ai photocopié, ça marche. Frère, j'ai réfléchi, j'ai un oncle, il habite aux États-Unis, mon frère. Frère, faut m'envoyer une photocopie seulement. Il m'a dit que ça va marcher. J'ai dit, pour moi, là. Il dit, envoie ça, ça va marcher. Je te promets, je vais réussir. Ça marche ici à Abidjan. Tu m'envoies ça seulement, ça va aller. Le frère aussi est content, il envoie. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Quand toi, tu vas commencer, les autres vont réussir. Toi seul, comme si tu es. Les clients, ils rangent chez les autres. Mais chez toi, Évidemment. Tu vas dire, Seigneur, comment signifier le diable? Et contre le projet, tu vas appeler le pasteur. Parce que j'ai une nouvelle photocopieuse. Mon oncle a envoyé la photocopieuse. Pour que je fasse la multiplication. Viens bénir. On veut, on prie, on fait en fonction de Dieu. Tout ça. Après, l'enfant qui met ta machine, c'est gaz. Si je ne comprends pas. J'appelle quelqu'un, déjà vient travailler là-dessus. Ça, c'est gaz. Si je ne comprends pas. On prie, tu chasses les démons, tu dis, ce sont les sorciers du village. Au nom de Jésus, je vous détruis, tu fais veiller même. Mais ça ne bouge pas. Qui a déjà enfanté des enfants comme ça? Vous savez, je crois que dans la vie chrétienne, il faut les enfanter quand même. Hein? De même que notre père Abraham. C'est notre père Abraham, quoi. Vous comprenez, non? Donc, il nous a montré l'exemple. Donc, très, très souvent, nous produisons des Ismaël avant de produire le Isaac. Alléluia. Mais tu ne dois pas avoir beaucoup d'Ismaël. Si tu as eu un, au moins, ça va. Maintenant, cette année, Isaac doit venir. Alléluia. Tu dois avoir la révélation. Et la parole de Dieu que tu vas recevoir, toi, crée en toi la foi. Tu dois croire en Dieu. Parce que cela ne viendra pas de toi. Mais cela viendra du Seigneur. Amen. Galates chapitre 4. Non, avant même de lire Galates chapitre 4. Psaume le chapitre 127. Je lis à partir du verset 2. On peut lire même le verset 1. Il a dit, quantité des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous, matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous du pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Amen. C'est un verset bizarre. La Bible dit que le fruit des entrailles est une récompense. T'as dit, non, mais le fruit des entrailles, c'est pas compliqué. Si j'ai une femme, c'est une récompense. Le fruit des entrailles. Alléluia. Ne vient pas automatiquement. Le fruit des entrailles. Que Dieu bénit. Est une récompense. Et un prix à payer. Alléluia. Ah, est-ce que vous me comprenez? Si tu comprends, fais comme ça. Alléluia. Il y a un état, tu dois te mettre dans une certaine position spirituelle afin de manifester le fruit des entrailles. Parce que le fruit des entrailles, selon le psaume 127, est une récompense. Amen. Galates chapitre 4, à partir du verset 25, il est dit, nous commençons à partir du verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous sautons. Verset 21, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né sous la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Quand j'ai lu le passage là, il y a une telle révélation profonde là-dedans. C'est-à-dire qu'on commence à tout comprendre. Amen. Paul ne parle pas simplement de Ismaël. Il ne parle pas simplement du fils qui n'est pas de la promesse. Il parle même, parce que je veux dire, pour être fécond, pour que tes enfants soient bénis, il faut que tu trouves la femme, c'est la personne qu'il faut. Alléluia. L'erreur, comprenez-moi, je parle de manière spirituelle, l'erreur d'Abraham, ça a été de se laisser entraîner par des pensées humaines et d'aller vers la femme à laquelle il ne veut pas aller, et il enfantait un enfant croyant être l'enfant de la promesse. Et la Bible dit que l'enfant qui est né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, a créé des problèmes. Alléluia. Il a créé des problèmes à celui qui devait venir de Dieu. Et Dieu lui a dit, faites disparaître l'enfant qui n'est pas de la promesse. Alléluia. Est-ce que tu me suis? On devait savoir. Gloire à Dieu. Faites disparaître l'enfant qui n'est pas de la promesse. Éloignez-le. Ah, on va éloigner les enfants qui ne sont pas de la promesse. Tu es prêt à les abandonner. Alléluia. Faut les éloigner. Il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, parce que tu vas enfanter. Et pas n'importe quel enfant. L'enfant qui vient de Dieu. L'enfant qui vient de Dieu. Permettez que je lise encore le passage. Car il est écrit, verset 22, qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui qui est de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Quand vous avez les enfants d'Agar, ils sont enfantés pour la servitude. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Qu'est-ce qu'il appelle en fait le mont Sinaï? Le mont Sinaï, je vais parler de la loi. Merci frère, tu comprends. Il parle de la loi. Parce que c'est là qu'a été donnée la loi. En fait, Paul explique que les principes de la loi ne mènent pas à la vie. Les principes de la loi sont les principes qui sont corrects. Ce qui est logique à faire. Ce qui est normal. Dieu a donné la loi pour que les hommes comprennent ce qui est normal. Et il dit, mais l'enfant de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est anormal. L'enfant qui est venu, c'est l'enfant anormal parce que la maman de Isaac ne devait pas enfanter. Vous savez, l'idée que je vais vous donner est quelque chose de très original. Ce n'est pas quelque chose qui vient en fonction de la logique. Alléluia. Frère, je vous prépare parce que Dieu va faire quelque chose en vous. Je sais que Dieu va vous parler. Ce n'est pas quelque chose qui est une analyse cohérente et logique. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand ça vient, alléluia, ça va produire en vous la vie. Mais il faut qu'à un moment, avant qu'il lui vienne, il y a des choses qui viennent avec votre analyse, votre logique, selon la loi. Est-ce qu'on appelle l'enfant qui est enfanté selon le mont Sinaï? Mais Sinaï, là, qui a amené Moïse au Sinaï? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a toujours l'enfant de Sinaï. En fait, si tu n'appelles l'enfant de Sinaï, c'est tout le monde doit avoir un enfant de Sinaï quand même. Pour pouvoir voir Isaac. Ouais. Alléluia. C'est pourquoi il demandait qui est passé par là déjà. Qui est déjà passé par là? Sur le plan spirituel. Hein, j'ai pas dit d'aller à Israël, en Israël. Voilà. Non, comprenez, on est les enfants de l'esprit. Hein. Mais ce que j'ai dit est trop compliqué. Ça peut aller, on est enfants de l'esprit. Donc, ok, gloire à Dieu. Mais je vais expliquer en fait, spirituellement parlant, bien physiquement, dans nos vies, c'est quand est-ce que nous sommes en train d'aller vers Agar pour enfanter? Et quand est-ce que nous sommes en train d'aller vers la mère de la promesse pour enfanter? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que, vous savez, pour que Sarah puisse enfanter, il n'y a rien d'autre si ce n'est qu'un miracle. C'est un miracle. Ce que je vais vous donner cette année, ce sera un miracle. Avant la fin de ce mois de février. Ça sera un miracle. Ce n'est pas quelque chose de logique que vous allez avoir. Alléluia. Mais tu vas mettre dans ton cœur quelque chose auquel les gens n'ont pas pensé. Et même si les gens voient le problème, mais c'est comme si les enfants c'est ça la solution. Mais toi, tu vas recevoir cela dans ton cœur. Et quand tu vas produire, ça sera différent. Et ce sont ces choses-là qui te distinguent. Parce que ce trésor est enfoui en toi. Avant que tu ne laisses toi là où tu es la solution de Dieu à un problème. Alléluia. Si les autres avaient résolu le problème pour lequel tu es né, toi, tu ne serais pas né. Mais tu es né pour régler quelque chose. C'est parce que les gens n'ont pas la solution que toi, tu es là. C'est pourquoi tu ne feras pas ce que la loi a déjà fait. Tu ne feras pas ce qu'ils ont déjà fait. Tu ne parleras pas comme les gens ont déjà parlé. Tu ne seras pas ce qu'ils ont été. Parce que si tu es ce qu'ils ont été, Le problème que toi tu es venu régler sur la terre ne sera jamais réglé. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Je suis quelqu'un d'à part, de différent. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans certaines versions, il n'est pas dit d'Ismaël qui les conseils sont lâchés. Je veux que quelqu'un me relise ce passage selon la version semaine. Oui.
Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Et le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine.
Le fils de l'esclave a été conçu de manière humaine, tout simplement humaine. Rappelez-vous lorsque je donnais les premiers principes de base pour ouvrir les portes. Nous avons lu un passage dans la parole dans le livre de Matthieu chapitre 16. Permettez que nous puissions le relire. Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de le dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Nous sommes au verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, suis bien, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Jean chapitre 15, verset 4, je lis rapidement. Il dit, demeurez en moi et moi je demeure en vous. Un servant ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Si nous portons le fruit de Dieu, quand tu portes le fruit de Dieu, selon ce que dit le Seigneur, Dieu te donne tout ce que tu vas demander. On lira tout à l'heure Jean chapitre 15. Vous comprenez, la Bible dit, vous devez porter du fruit. Tu dois porter ton fruit. Ton fruit, c'est ce que Dieu a déposé en toi. Mais là, comme je dis, nous sommes en train d'étudier posément les différents éléments qui nous empêchent de porter le fruit de Dieu et qui nous font enfanter constamment des Ismaël au lieu d'enfanter les Isaac. Amen. Les Isaac de nos vies. Ceux qui sont les fils de la promesse. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Pierre, arrive vers Jésus. Regardez ce qui se passe. Jésus lui demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Pierre répond, les autres répondent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Autour de Pierre, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus donne cette phrase. Il dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et j'ai pris cette passage la dernière fois pour vous dire que cela signifie que notre chair parle et elle donne des révélations. Et il dit, ce n'est pas le sang qui t'a parlé. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique que, en fait, dans le sang, là, c'est l'âme. Ça veut dire aussi que l'âme parle. L'âme te donne des conseils. Jésus a posé une question. Tous les premiers qui ont répondu, ils ont répondu selon l'âme. Regardez la phrase. Il dit, les gens disent que, et puis ils ont répondu selon le bruit de dehors. Ils ont répondu selon leur chair. Ils ont répondu selon leur âme. Mais Jésus, c'est qu'est-ce que Jésus dit? Pour vous, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, Pierre, toi, tu as reçu l'inspiration de Lévitique. Ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont dit ces choses. Quelques temps après, Jésus annonce à ses disciples qu'il va aller être crucifié. Pierre arrive vers lui, il dit, non, ne dis pas une chose pareille. La dernière fois, je vous ai mis tous au défi, je dis, quand on aime Jésus, nous tous qui sommes ici, je crois que nous aurons eu la même réaction que l'apôtre Pierre. Même si moi-même passais à nos goûts, je vais vous dire, frère, dans quelques jours, je serai crucifié. Vous me direz, non, pasteur. Amen. Bon, soit si vous ne m'aimez pas, mais si vous m'aimez. Amen. Vous me direz, non, pasteur, on ne dit pas les choses comme ça. C'est ce que Pierre a fait. Mais Jésus a vu le diable. ici. Dites-moi, vous rappelez ce que j'avais dit la dernière fois, en quoi dire à une personne qui s'apprête à aller mourir, qui dit une parole dramatique, ce que tu fais là, on ne dit pas une parole comme ça. On ne dit pas que tu vas aller mourir. Jésus le regarde. Il dit, Satan, va-t'en. Qu'est-ce que Satan veut, Satan, ici? Où est le diable? Dans cette situation où vous ne voyez ni péché. Quel péché il a commis? Y a-t-il adultère ici? Y a-t-il impudicité? Y a-t-il quoi? Quelqu'un qui aime son maître et qui dit, ne dis pas une parole, ne dis pas une chose pareille. C'est le diable. Le diable peut vous donner un enfant, même dans ce qui paraît logique. Alléluia. Le diable peut vous inspirer des choses, même qui paraissent logiques et qui sont conformes à ce que tout le monde peut penser. Et voilà ce qu'il va dire. Ce que tu dis, bien, ce sont les pensées des hommes. Vous dites quoi? Au début, on a vu que la chair et le sang révélaient des choses, mais qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Mais les hommes. Oh, ce mort, vous allez apprendre à ne pas écouter le bruit du dehors, mais écouter votre Dieu. Alléluia. Parce que l'enfant vient de lui, pas des hommes, pas de la meute. Pas du bruit qui court à l'extérieur, ce que tout le monde raconte. Ce que tout le monde dit de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que tu me suis? Tu vas recevoir un rima. Un rima, c'est une révélation de Dieu. Il va te dire, voilà ce que toi tu verras. Et tu vas enfanter ce qui sera pour toi une bénédiction de joie. Qui sera le fils de ta promesse. C'est ce que Dieu dit. C'est ça la deuxième porte. Je bénirai tes entrailles. Et c'est ce qu'il dit dans Psaume 27. Il dit non, attention. Ce n'est pas le fait d'avoir un enfant qui est la bénédiction des entrailles. Il dit non. Le fruit des entrailles dont Dieu parle est une récompense de l'éternel. Ce n'est pas le fait d'aller vers une femme qui te donne l'enfant des entrailles. Nous, pour nous, le fruit n'est pas une récompense. Pour lui, c'est d'aller vers une femme. Il dit, moi, le fruit qui vient de moi, le psaume 127, c'est une récompense. Ça vient de moi. Ça ne vient pas de toi. Amen. Alléluia. Alors, je vais citer quelques points pour aujourd'hui. Comme je dis, c'est une étude que nous faisons. Nous allons aller pas à pas. Et puis, prier constamment le Seigneur. Prier constamment le Seigneur. Quelle était, racontons, résumons, quelle était l'histoire donc, de Agar. Nous allons comprendre donc les trois éléments, parce qu'il y en a trois, qui nous donnent d'enfanter Ismaël. Amen. Et il y a un seul élément qui nous donne d'enfanter Isaac. Sur moi, tes entrailles seront bénies. Je veux que tu crois cela. Je veux que tu crois que quelque chose va sortir. Je veux que tu crois qu'avant la fin du mois de février, tu vas recevoir l'inspiration qui te conduira toute l'année 2007. Que tu saches que le Seigneur le fera. Tu vas recevoir cela de Dieu. Cette année 2007, tu recevras cela de ton Dieu. Dans le mois de février. Pas le mois. Dieu nous a promis une chose. Il dit chaque mois, j'ouvre une porte pour vous. On va ouvrir nos portes, frère. Nous allons les ouvrir. Et vous serez différents. Dans vos entreprises, vous serez différents. Je vais te montrer dans ta boîte les choses que tu vas faire. Qui te mettront à part. Qui feront que tu es vraiment l'homme de la situation. Et tu es la femme de la situation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, citons quelques points. Les premiers enfants qui viennent, dans la première version, dans lui, second, il dit l'enfant de la chair, l'enfant qui est fait selon la chair. D'où vient le problème? Abraham attendait la promesse de Dieu. Et cela tardait à se manifester. Alors, au moment Sarah, selon la coutume de l'époque, tu avais aussi pour enfant l'enfant de ta servante. Alléluia. Mais je me dis, il y a un truc qui m'a compris. Je me dis, pourquoi Dieu n'a pas accepté l'enfant de Agar? Et Dieu a accepté les enfants des coépouses de Jacob. Jacob avait deux femmes légitimes. Léa et Rachel. Et il y avait deux coépouses. Comment ça s'appelait? Bilha et Zilpa. Amen. Mais quand on compte les 12 tribus d'Israël, on a dit normalement, les enfants de la promesse sont les enfants de Rachel ou de Léa ou bien les enfants des deux. Mais pourquoi les coépouses qui sont venues de la même façon que Ismaël? Parce que chacun a marié deux femmes, Léa et puis Rachel. C'est Léa
qui lui a donné sa servante aussi. Et Abraham, et pardon, Jacob a eu des enfants avec elle. Rachel aussi a donné sa servante et Jacob a eu des enfants avec elle. Ils sont considérés comme les enfants de Rachel et les enfants de Léa. C'est cette même coutume-là que Abraham a voulu appliquer. Alléluia. Donc, maman Sarah dit, papa Abraham, il y a longtemps on attend. Allons prendre Agar. Alléluia. Allons prendre Agar. Et Agar, la différence c'est que Agar était une égyptienne. L'Égypte, ça parle de l'esclavage, ça parle de la servitude. C'est pourquoi il dit, l'autre c'est le mont Sinaï, c'est l'enfant de la servitude, l'enfant de l'esclavage. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est quoi les trois éléments? Premièrement, c'est enfanter selon l'esprit du monde, selon les désirs de la chair. Alléluia. Mais dans l'esprit du monde, le troisième élément qui est inclus, enfanter selon l'esclavage de la mentalité. Ce que j'appelle l'esclavage de la mentalité. Vous savez, on est des pays colonisés. La colonisation est une chose qui vous rend esclave de la mentalité. Amen. Et ça vous fait produire des choses. Par exemple, beaucoup de gens sont convaincus que pour réussir, il faut aller en France. Ce que tu as fait là-bas, là, c'est un enfant de l'esclave. Tu vois? Parce que ta mentalité te dit que tu es inférieur au blanc. Même si dans ta bouche, il dit non, on est égaux. Mais vous pouvez imaginer combien de fois, en fait, quand je parlais de l'enfant de l'esclave, je vais vous expliquer combien de fois vos pères, combien de fois les gens qui ont eu de l'ascendance sur vous, n'est-ce pas, à un moment donné, peuvent vous penser esclave d'une mentalité qui produit des enfants qui sont aussi des enfants de la chair, qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Un exemple de l'esclavage de la mentalité. Vous arrivez dans un restaurant ici à Abidjan. Vous êtes assis, vous êtes noir. Mais si un blanc rentre tout de suite, vous allez voir la différence, la façon dont le serveur va servir. Il est complexé. Alléluia. Vous savez, les gens nous font croire, des gens de complexe du genre, si un noir fait quelque chose, c'est pas bon. Mais quand c'est un blanc. Et vous allez voir, même en Afrique ici, et quand les gens embauchent des personnes moins compétentes, parce qu'ils sont des blancs, les gens les acceptent. Non, on n'est pas contre les Européens. Je vais vous expliquer en fait ce que c'est que la mentalité de l'esclavage. Amen. La mentalité de l'esclavage est une chose, sont des choses que vous avez vécues dans votre passé. Amen. Qui vous lient l'esprit. Et qui vous disent que telle chose n'est pas possible. On ne peut pas réussir comme ça. Moi seul, je ne peux pas le faire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la mentalité de la servitude. Et ce type de mentalité-là amène les gens à produire. Beaucoup de gens sont convaincus. C'est ce que j'appelle la mentalité de l'esclave, que eux, ils ne peuvent pas réussir, ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas entreprendre. Ils sont convaincus que pour réussir dans la vie, c'est la mentalité de l'esclave, ils doivent être des employés. Ils ne veulent jamais laisser Dieu manifester ce qu'ils ont en eux. Je n'ai pas dit de ne pas travailler chez les gens. Vous comprenez? Mais ils n'ont. La mentalité de l'esclave, c'est quoi? Je donne encore un exemple, je prends en Côte d'Ivoire. Autant le président, il dit l'avenir appartient aux scientifiques. Ça, c'est un exemple très concret. Merci, pasteur, ça me revient. On a dit l'avenir appartient aux scientifiques. Je vais montrer ce que c'est que la mentalité de l'esclave. On répète ça. L'avenir appartient aux scientifiques. Scientifique, 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 scientifique. Mon frère, tu es un génie littéraire. Extraordinaire. Quelqu'un qui rédige extraordinairement. La force de te rabâcher. Scientifique, scientifique, l'avenir, scientifique, scientifique, l'avenir. Tu arrives en classe de troisième. On dit que tu dois aller en seconde A. Tu dis, moi, je dois faire seconde C. Amen. Et tu vois, les gens t'ont lié l'esprit et t'empêchent, parce qu'à cause de la mentalité de tes pères, tu produis pas ce qui est en toi, mais ce que la mentalité de l'esclave te donne de produire. Et les gens, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le français ivoirien a baissé parce que les littéraires ont démissionné. Non, c'est même plus parler le français. On dit quoi, ça va aller. Non, mais frère, je suis sérieux, hein. Vous comprenez? Mais pourquoi? Et vous avez des gens, donc, à cause de l'enfant de l'esclave, suivent des branches qui ne sont pas leurs branches, qui ne sont pas les destinées. Ils rentrent dans des chemins, ils enfantent des choses qui sont les enfants de l'esclave et qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ils enfantent parce qu'on a lié leur esprit à une façon de penser. On dit, dans la vie, si tu veux réussir, si tu n'es pas diplômé de Yamsoukro, On te dit, à l'université d'Abidjan, là. Tu as eu quoi? Tu as quoi? Maîtrise en sciences éco. C'est fini, mon frère. Et tout le monde veut te dire tous les jours. C'est ça ton diplôme. C'est fini. Tu vas trouver du travail. C'est toi-même, tu es là. Avant d'aller demander le boulot, tu es convaincu que toi, tu n'as pas travaillé. Ça, là, c'est la mentalité des esclaves. Et qu'est-ce que tu vas faire à cause de cette mentalité? Allez t'asseoir, tu dis bon, allez faire garba, c'est pas grave. Mais j'allais faire cabine. Ce que tu entends de produire, c'est l'enfant de l'esclave. Quand tu ne sais pas qui tu es et où tu vas, mais tu agis parce qu'on t'a dit que toi, ton diplôme est nul. Et parce que les gens t'ont dit tous les jours que ceux qui ont du travail ici en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont fait une telle branche donnée. Et parce que tu es limité par cette pensée, Dieu ne manifeste pas en toi ce qu'il a promis. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Quand tu écoutes la voix de ta chair et tu écoutes la voix de ton âme. Et tu écoutes la voix du monde. Et tu ne sais pas qui tu es. Dis-le, mon frère. Dans le monde ici, il y a un seul diplôme qui prouve du travail. Un seul diplôme. Ici, tu n'es pas expert comptable. Tu es foutu. Donc tu arrives. Tu n'es pas expert comptable. Tu es complexé dans la vie. Quand toi-même tu vas demander ton travail, tu as honte. Et pitié. Et même ton CV, même, tu peux CV en pitié. C'est-à-dire, on a qu'à t'embaucher. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Quand tu regardes, non, c'est une affaire de pitié. Pas une affaire de quelqu'un qui a un potentiel à donner. Pas une affaire de quelqu'un qui a un potentiel à vendre. La Bible dit une chose, la main qui reçoit est toujours l'esclave de la main qui donne. Si tu crois que tu n'as rien, Dieu ne te donnera rien. Si les gens t'ont dit que tu n'as rien, tu seras toujours rien. Dieu n'a pas pitié, hein. Là, je vous explique. Il faut continuer à pleurer, tu vas comprendre. Tu vas mourir dans la pauvreté. Tu vas aller au paradis, mais tu vas rester dans ta situation. Continue de croire que toi, tu n'as rien. Pourquoi tu vas te créer et puis il va rien te donner? Parce que le monde a déterminé que c'est l'école qui va réussir, donc Dieu est limité par les écoles. Qui vous a dit ça? Parce que le monde a choisi des voies, c'est ce qu'on appelle la mentalité de l'esclave, le fils de l'esclavage, la servitude. Dieu n'est pas limité par ces choses. Qui que vous soyez, croyant ce que Dieu a déposé en vous. Arrêtez de dire, non, moi je me suis juste arrêté à une licence, je ne peux rien faire avec ça. Qui t'a dit cela? Et parce que vous croyez que vous n'avez pas de diplôme, tout ce que vous produisez, c'est la forme de l'esclavage. Et Dieu ne bénit pas vos œuvres. Dieu ne bénit pas vos entreprises. Dieu ne bénit pas vos projets. Parce que ce sont des projets que vous produisez suite à votre complexe d'infériorité. C'est votre complexe qui vous fait travailler comme ça. C'est votre complexe qui vous fait agir de la sorte. C'est votre complexe qui vous fait faire ce boulot-là. C'est votre complexe qui vous donne de poser ces actes. C'est votre complexe. Ce n'est pas Dieu. C'est votre complexe face à la réalité actuelle qui vous conduit dans cette voie. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce que vous tentez de produire s'appelle l'enfant de l'esclave. Mais pas l'enfant de la liberté qui vient de Dieu. Amen, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.